Les Misérables de Victor Hugo, adapté par Hélène Bleskin, réalisé par François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. 14e et dernier épisode.
Monsieur Gillenormand demande à Jean Valjean la main de Cosette pour son petit-fils Marius. Ils se marient le 16 février 1833. Le lendemain, Jean Valjean vient voir Marius. Il lui avoue être un ancien forçat. Marius lui promet de ne rien dire à Cosette. Il préférerait que Jean Valjean ne vienne plus, mais accepte cependant qu'il passe la voir tous les soirs. Un jour, il ne vient plus. La vie continue paisiblement pour Marius et Cosette, jusqu'au jour où un homme déguisé se présente à leur porte.
Marius venait de se retirer dans son cabinet, ayant un dossier à étudier. Basque lui avait remis une lettre.
La personne qui a écrit la lettre est dans l'antichambre.
Marius la prit. Elle sentait le tabac. Rien n'éveille un souvenir comme une odeur.
À monsieur le baron Pommerci, en son hôtel.
Le tabac reconnu lui fit reconnaître l'écriture. On pourrait dire que l'étonnement a des éclairs. Marius fut comme illuminé d'un de ces éclairs-là. Le galetas Jondrette lui apparaissait. Il décacheta avidement la lettre et il lut.
Monsieur le baron, je suis en
Monsieur le baron, je suis en possession d'un secret concernant un individu.
Je vous donnerai
cet individu vous concerne.
Honorable famille.
Je vous donnerai le moyen simple de le chasser de votre honorable famille. Le sanctuaire de la vertu ne pourrait cohabiter plus longtemps avec le crime sans abdiquer.
La lettre était signée Thénard. L'émotion de Marius fut profonde. Il eut un mouvement de bonheur. Qu'il trouva maintenant l'autre homme qu'il cherchait, celui qu'il avait sauvé, lui, Marius, et il n'aurait plus rien à souhaiter. Il ouvrit un tiroir de son secrétaire, y prit quelques billets de banque, les mit dans sa poche et sonna.
Faites entrer.
Monsieur Thénard.
Nouvelle surprise pour Marius. L'homme qui entra lui était parfaitement inconnu. Cet homme, vieux du reste, était vêtu de noir de la tête aux pieds. Il marchait voûté et la courbure de son dos s'augmentait de la profondeur de son salut.
Monsieur le baron,
que voulez-vous?
Il me semble impossible que je n'aie pas déjà eu l'honneur de voir monsieur le baron dans le monde, chez madame la princesse Bagration et les salons de sa seigneurie, le vicomte d'Ambray, pair de France.
Je n'ai de ma vie ni le pied ni chez l'un ni chez l'autre. Abrégeons. Qu'est-ce que vous voulez?
Il y a en Amérique, dans un pays qui est du côté de Panama, un village appelé La Joya. Pourquoi y va-t-on? C'est que ce pays est merveilleux. On y trouve de l'or. Je suis un ancien diplomate fatigué. La vieille civilisation m'a mis sur les dents. Je veux essayer des sauvages.
Où voulez-vous en venir?
Je voudrais m'établir à La Joya. Le voyage est long et cher. Il me faut un peu d'argent.
En quoi cela me regarde-t-il?
Est-ce que monsieur le baron n'a pas lu ma lettre?
Précisez.
Soit, je précise. J'ai un secret à vous vendre.
Qui me concerne?
Un peu. Je commence gratis. Vous allez voir que je suis intéressant. Monsieur le baron, vous avez chez vous un voleur et un assassin.
Chez moi?
Cet homme s'est glissé dans votre famille sous un faux nom. Je vais vous dire son nom vrai. Et vous le dire pour rien.
J'écoute.
Il s'appelle Jean Valjean.
Je le sais.
C'est un ancien forçat.
Je le sais.
Vous le savez depuis que j'ai l'honneur de vous le dire.
Non, je le savais auparavant.
Le ton froid de Marius, cette double réplique, je le sais, remuèrent dans l'inconnu quelques colères sourdes. Il décocha à la dérobée à Marius un regard furieux. Si rapide qu'il fût, ce regard était de ceux qu'on reconnaît quand on les a vus une fois. Il n'échappa point à Marius.
Dans tous les cas, vous devez voir que je suis renseigné. Maintenant, ce que j'ai à vous apprendre n'est connu que de moi seul. Cela intéresse la fortune de Madame la Baronne. C'est un secret extraordinaire. Il est à vendre. Bon marché. 20 000 francs.
Je sais ce secret-là comme je sais les autres.
Il faut pourtant que je dîne aujourd'hui. C'est un secret extraordinaire, vous dis-je.
Je sais votre secret extraordinaire, de même que je sais votre nom.
Mon nom ?
Thénardier.
Qui ça ?
Vous êtes aussi l'ouvrier Jondrette et vous avez tenu une gargote à Montfermeil.
Une gargote ? Jamais.
Et je vous dis que vous êtes Thénardier et que vous êtes un gueux. Tenez.
500 francs. Merci, monsieur le baron. Un fafio sérieux. Eh bien, soit. Mettons-nous à notre aise. Monsieur le baron est infaillible. Je suis Thénardier.
Thénardier, je vous ai dit votre nom. À présent, votre secret, voulez-vous que je vous le dise ? J'ai mes informations, moi aussi. Jean Valjean, comme vous l'avez dit, est un assassin et un voleur. Un voleur parce qu'il a volé un riche manufacturier dont il a causé la ruine, Monsieur Madeleine. Un assassin parce qu'il a assassiné l'agent de police Javert. Moi qui vous parle, j'étais présent.
Monsieur le baron, nous faisons fausse route.
Ce sont des faits.
Ce sont des chimères. Jean Valjean n'a pas volé Monsieur Madeleine. Attendu que c'est lui-même Jean Valjean qui est Monsieur Madeleine. Et il n'a pas assassiné Javert, attendu que celui qui a tué Javert, c'est Javert.
Que voulez-vous dire ?
Que Javert s'est suicidé.
Prouvez ? Prouvez ?
J'ai mon dossier. Deux faits, deux preuves.
Ces deux journaux, le lecteur les connaît. L'un, le plus ancien, un numéro du drapeau blanc du 25 juillet 1823, établissait l'identité de M. Madeleine et de Jean Valjean. L'autre, un moniteur du 15 juin 1832, constatait le suicide de Javert.
Eh bien alors, ce malheureux est un admirable homme. Toute cette fortune était vraiment à lui. C'est Madeleine, la providence de tout un pays. C'est Jean Valjean, le sauveur de Javert. C'est un héros. C'est un saint.
Ce n'est pas un saint. Et ce n'est pas un héros. C'est un assassin et un voleur. Calmons-nous. Monsieur le baron, je vais vous dire tout laissant la récompense à votre générosité. J'ai besoin de quelque argent pour mon voyage à la Joya. Je suis un peu fatigué. Permettez-moi de prendre une chaise. Le 6 juin 1832, il y a un an environ, le jour de l'émeute, un homme était dans le grand égout de Paris, entre le pont des Invalides et le pont d'Iéna. Cet homme, forcé de se cacher, pour des raisons du reste étrangères à la politique, avait pris l'égout pour domicile et en avait une clé. Il pouvait être 8 heures du soir. L'homme entendit du bruit dans l'égout. On marchait dans l'ombre. On venait de son côté. La grille de sortie n'était pas loin. Le nouveau venu marchait courbé. C'était un ancien forçat et ce qu'il traînait sur ses épaules était un cadavre. Flagrant délit d'assassinat s'il en fut. Monsieur le baron, un égout n'est pas le champ de Mars. On y manque de tout et même de place. Le domicilié et le passant furent forcés de se dire bonjour. Le passant dit « Tu vois ce que j'ai sur le dos ? Il faut que je sorte. Tu as la clé. Donne-la-moi. » Ce forçat était d'une force terrible. Il n'y avait pas à refuser. Pourtant, celui qui avait la clé parlementa. Il examina ce mort, mais il ne put rien voir, sinon qu'il était jeune, bien mis, l'air d'un riche, et tout défiguré de sang. Tout en causant,
Il trouva moyen d'arracher par derrière, sans que l'assassin s'en aperçût, un morceau de l'habit de l'homme assassiné. Pièce à conviction, vous comprenez ? Moyen de ressaisir la trace des choses et de prouver le crime au criminel. Il l'a mis dans la poche. Après quoi, il ouvrit la grille, fit sortir l'homme avec son embarras sur le dos, referma la grille et se sauva.
Celui qui portait le cadavre, c'est Jean Valjean.
Celui qui avait la clé vous parle en ce moment. Et le morceau de l'habit, le voici. Monsieur le baron, j'ai les plus fortes raisons de croire que le jeune homme assassiné était un opulent étranger attiré par Jean Valjean dans un piège et porteur d'une somme énorme.
Le jeune homme était moi, et voici l'habit.
Marius jeta sur le parquet un vieil habit noir tout sanglant. Puis, arrachant le morceau des mains de Thénardier, il s'accroupit. La déchirure s'adaptait exactement, et le lambeau complétait l'habit. Thénardier était pétrifié.
Vous êtes un infâme, un menteur, un calomniateur. Vous vouliez le perdre, vous n'avez réussi qu'à le glorifier. C'est vous qui êtes un voleur. Je vous ai vu, Thénardier Jondrette, dans ce bouge du boulevard de l'hôpital. J'en sais assez sur vous pour vous envoyer au bagne. Tenez, voilà 1000 francs. Sortez d'ici. Waterloo vous protège.
Waterloo ?
Oui. Vous y avez sauvé la vie à un colonel. Partez, disparaissez. Voilà encore 3000 francs. Prenez-les. Vous partirez dès demain pour l'Amérique. Allez vous faire pendre ailleurs.
Monsieur le baron, reconnaissance éternelle.
Finissons-en tout de suite avec cet homme. 2 jours après, il partit par les soins de Marius pour l'Amérique, sous un faux nom, muni d'une traite de 20 000 francs sur New York. La misère morale de Thénardier, ce bourgeois manqué, était irrémédiable. Avec l'argent de Marius, il se fit négrier.
Cosette, viens vite. Mon Dieu, c'est lui qui m'a sauvé la vie. Ne perdons pas une minute. Mets ton châle. Cosette, je suis un malheureux.
Basque, un fiacre !
Marius était éperdu. Il commençait à entrevoir dans ce Jean Valjean on ne sait quelle haute et sombre figure. Une vertu inouïe qui apparaissait, suprême et douce, humble dans son immensité.
Quel bonheur ! Je n'osais plus t'en parler. Nous allons voir Monsieur Jean.
Ton père, Cosette. Ton père, plus que jamais. Cosette, tu m'as dit que tu n'avais jamais reçu la lettre que je t'avais envoyée par Gavroche. Elle sera tombée dans ses mains. Il est allé à la barricade pour me sauver. Comme c'est son besoin d'être un ange, en passant, il en a sauvé d'autres. Il a sauvé Javert. Il m'a tiré de ce gouffre pour me donner à toi. Il m'a porté sur son dos dans cet effroyable ennemi. Ah, je suis un monstrueux ingrat. Cosette, après avoir été ta providence, il a été la mienne. Nous allons le ramener, le prendre avec nous. Qu'il le veuille ou non, il ne nous quittera plus. Tout s'explique. Tu comprends ?
Tu as raison.
Entrez. Cosette.
Père.
Cosette. Elle. Vous, madame. C'est toi. Oh mon Dieu, c'est toi. Tu es là. Tu me pardonnes donc.
Mon père.
Et vous aussi, vous me pardonnez. Merci. Comme on est bête, je croyais que je ne la verrais plus. Figurez-vous, monsieur Pontmercy, qu'au moment où vous êtes entré, je me disais, c'est fini. Étais-je idiot ? Mais on compte sans le bon Dieu qui dit, allons, il y a là un pauvre bonhomme qui a besoin d'un ange.
Et l'ange vient. Ah, je la revois. Sais-tu, Cosette, que ton mari est très beau? Monsieur Pontmercy, laissez-moi la tutoyer. Ce n'est pas pour longtemps.
Quelle méchanceté de nous avoir laissés comme cela. Où êtes-vous donc allé? J'ai envoyé Nicolette, on répondait toujours, il est absent. Savez-vous que vous êtes très changé? Ah, le vilain père, il a été malade et nous ne l'avons pas su. Tiens, Marius, tâte sa main comme elle est froide.
Ainsi vous voilà. Monsieur Pontmercy, vous me pardonnez.
Cosette, entends-tu? Il en est là. Il me demande pardon. Et sais-tu ce qu'il m'a fait? Il m'a sauvé la vie. Il a fait plus. Il t'a donné à moi. Et après, qu'a-t-il fait de lui-même? Il s'est sacrifié. Et à moi, l'ingrat, le coupable, il me dit merci.
Chut, pourquoi dire tout cela?
Mais vous, pourquoi ne l'avez-vous pas dit? C'est votre faute aussi. Vous sauvez la vie aux gens et vous le cachez. Vous faites plus. Sous prétexte de vous démasquer, vous vous calomniez. C'est affreux.
J'ai dit la vérité.
Non, la vérité, c'est toute la vérité. Je vous devais la vie. Pourquoi ne pas l'avoir dit?
Je trouvais que vous aviez raison. Il fallait que je m'en allasse. Si j'avais parlé, cela aurait tout gêné.
Nous vous emmenons. Vous faites partie de nous-mêmes. Vous êtes son père et le mien. Ne vous figurez pas que vous serez demain ici.
Demain, je ne serai pas ici. Mais je ne serai pas chez vous.
Que voulez-vous dire?
Cette fois-ci, c'est pour de bon. Je vous enlève. S'il le faut, j'emploierai la force. Il y a toujours votre chambre dans notre maison. Si vous saviez comme le jardin est joli dans ces moments-ci, les azalées viennent très bien. Vous mangerez de mes fraises, c'est moi qui les arrose. Et plus de madame et plus de monsieur Jean. Nous sommes en République, tout le monde se dit tu, n'est-ce pas Marius? Si vous saviez, père, j'ai eu un chagrin. Il y avait un rouge-gorge qui avait fait son nid dans un trou du mur. Un horrible chat l'a mangé. Mon pauvre joli petit rouge-gorge qui mettait sa tête à sa fenêtre et qui me regardait. J'en ai pleuré. Mais maintenant, tout le monde est heureux. Vous allez venir avec nous. Et puis, je ferai tout ce que vous voudrez. Et puis, vous m'obéirez bien.
La preuve que Dieu est bon, c'est que la voilà.
Oh, mon père.
C'est bien vrai que ce serait charmant de vivre ensemble. Seulement, c'est dommage.
Vos mains sont encore plus froides. Est-ce que vous souffrez?
Non, je suis très bien. Seulement, je vais mourir tout à l'heure.
Mourir?
Oui, mais ce n'est rien. Cosette, tu me parlais, continue. Ton petit rouge-gorge est donc mort. Parle, que j'entende ta voix.
Père, vous allez vivre. Je veux que vous viviez, entendez-vous?
Oui. Défends-moi de mourir. Qui sait? J'obéirai peut-être. J'étais en train de mourir quand vous êtes arrivé. Ça m'a arrêté. Il m'a semblé que je renaissais.
Vous êtes plein de force et de vie. Vous allez vivre et vivre avec nous. Nous vous reprenons.
Vous voyez bien que Marius dit que vous ne mourrez pas.
Ce n'est rien de mourir. C'est affreux de ne pas vivre.
Père, ne nous quittez pas. Est-il possible que nous ne vous retrouvions que pour vous perdre?
Approchez tous deux. Je vous aime bien. Oh, c'est bon de mourir comme cela. Toi aussi tu m'aimes, ma Cosette. Comme tu es gentille de m'avoir mis ce coussin sous les reins. Tu me pleureras un peu, n'est-ce pas? Pas trop. Je veux pas que tu devrais chagrin. Il faudra vous amuser beaucoup, mes enfants. Vous n'oublierez pas que je suis un pauvre.
Vous me ferez enterrer dans le premier coin de terre venu, sous une pierre pour marquer l'endroit. C'est là ma volonté. Pas de nom sous la pierre. Cosette, voici le moment venu de te dire le nom de ta mère. Elle s'appelait Fantine. Retiens ce nom-là, Fantine. Elle a bien souffert. Elle t'a bien aimé. Elle a eu en malheur tout ce que tu as en bonheur. Ce sont les partages de Dieu. Vous êtes des êtres bénis. Je ne sais pas ce que j'ai. Je vois de la lumière. Approchez encore. Je meurs heureux. Donnez-moi vos chères têtes bien-aimées. Que je mette mes mains dessus.
Cosette et Marius tombèrent à genoux, éperdus, étouffés de larmes, chacun sur une des mains de Jean Valjean. Ses mains augustes ne remuaient plus. Il était mort. La nuit était sans étoiles. Sans doute, dans l'ombre, quelque ange immense était debout, les ailes déployées, attendant l'âme. Il y a au cimetière du Père Lachaise, aux environs de la fosse commune, loin du quartier élégant de cette ville de sépulcre, dans un angle désert, le long d'un vieux mur, sous un grand if, une pierre. L'eau la verdit, l'air la noircit. Quand il y a un peu de soleil, les lézards y viennent. Au printemps, les fauvettes chantent dans l'arbre. Cette pierre est toute nue, on n'y lit aucun nom. Seulement, voilà de cela bien des années déjà, une main y a écrit au crayon ces quatre vers qui sont devenus peu à peu illisibles sous la pluie et la poussière et qui probablement sont aujourd'hui effacés. Il dort, quoique le sort fût pour lui bien étrange. Il vivait, il mourut quand il n'eut plus son ange. La chose simplement d'elle-même arriva, comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va.
C'était Les Misérables de Victor Hugo, adapté par Hélène Bleskin. 14e et dernier épisode. Avec Philippe Magnan, le narrateur, Jean-Marie Vigning, Jean Valjean, Clément Bondu, Marius, Hervé Furic, Thénardier, Aurélie Nusillard, Cosette, et les voix de Séguir Mohamedi, Hugues Boucher et Myriam Ajar. Musique originale composée par Krishna Levy. Interprétée par Françoise Guéry, Christophe Guillot, Laurent Lefebvre, Philippe Nadal et Françoise de Maubus. Bruitage Patrick Martinache et Jean-François Bernard Sugy. Prise de son, montage, mixage, Catherine Déréthée et Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, François Christophe.